nzamba
nzambira samirana
Nous sommes jeudi 2 septembre 2021, c'est l'heure du journal sur la radio Inzamba Gati Kakawe. Tout d'abord les titres. Les cas positifs au Covid-19 sont en hausse en province Makamba. Une situation qui inquiète la population parce que les mesures barrières ne sont pas respectées. Les organisations des professionnels des médias nationaux et internationaux s'alarme de propos du président de la République qui s'en prend à deux journalistes burundais. Elle demande à Evariste Ndayishimiye de s'occuper de plus urgent en protégeant les Burundais du Covid-19. Bientôt, une délégation de réfugiés du camp d'Onduta en Tanzanie sera envoyée au Burundi pour s'enquérir de la situation qui y prévaut. Pour les réfugiés, c'est une nouvelle stratégie de les forcer à rentrer au pays. Voilà pour les titres. Au micro, vous êtes avec Josephine Johnson-Ndimana. Bonjour à toutes et à tous.
Suivez les émissions de la radio Inzamba en direct sur le www.inzamba.org.
23 personnes ont été testées positives à la Covid-19. Au cours de cette semaine, au chef-lieu de la province Makamba et en commune Mabanda de la même province, selon des sources sur place, une partie des patients sont sous traitement à leur domicile. Les habitants de la province Makamba se disent inquiets d'une forte propagation de ce fléau alors que les mesures de protection ne sont pas respectées. Blaise Nijimbere, reportage.
Une vingtaine de cas étaient testés positifs au laboratoire de l'hôpital Makamba, dont 3 parmi le personnel de l'hôpital et 3 au centre de santé Mabanda, dont un infirmier. Au chef-lieu de la province, 12 sont sous traitement, étant confinés à l'hôpital Makamba, et 8 autres testés positifs sont sous traitement à leur domicile, selon des informations fournies par des proches de malades. Selon certains habitants contactés, ils préfèrent s'acheter des médicaments sans se faire dépister, de peur d'être confinés dans une maison de l'hôpital destinée à cette fin. Ils déplorent les conditions dans lesquelles se trouvent les malades confinés dans cette maison de l'hôpital. Selon les malades, ils sont isolés et se sentent stigmatisés car ils ne reçoivent même pas de visites et l'approvisionnement en vivres est très difficile. La même source dit que cette forte propagation serait liée à ce phénomène déjà qui ne procède pas au dépistage et continue à se promener sans respect des mesures barrières. Le phénomène est le même en commune Mabanda où 3 personnes dont un infirmier du centre de santé Mabanda ont été testées positives cette semaine. Une source au sein du personnel de la santé dit que tous ces cas confirmés prennent des médicaments chez eux par manque de lieu de confinement. Les habitants de la province Makamba se disent inquiets d'une forte propagation du Covid car les conditions de prévention ne sont pas respectées. Cette forte propagation du Covid se fait remarquer en province Makamba au moment où Françoise Ngozi-Lazana, gouverneur de cette province, vient d'alerter sur le respect des mesures barrières dans un communiqué sorti le 26 août dernier. La radio Inzamba n'a pas encore réussi à trouver le médecin provincial de Makamba, Dr Oscar Ndiyanibagira, pour s'exprimer sur la propagation du Covid-19.
Reporters sans frontières, une organisation qui défend la liberté de la presse, condamne l'attaque verbale du président Evariste Ndayishimiye contre 2 journalistes burundais. Antoine Kaburahe, directeur du groupe de presse Iwachu et Zidras Ndikumana de la Radio France Internationale, sont accusés de déstabiliser le Burundi à travers les révélations sur la gravité de l'épidémie de Covid-19 dans le pays. Arnaud Fogère, responsable du bureau Afrique de RSF, rappelle que les journalistes ne sont pas là pour plaire au gouvernement, mais plutôt d'aider les autorités à prendre de bonnes décisions.
Ce sont des propos, évidemment, que nous condamnons fermement. Ce sont des propos qui sont graves, qui sont dangereux et qui dénotent malheureusement de la très grande fragilité dans laquelle se trouve encore la liberté de la presse au Burundi. Malheureusement, on pouvait avoir des espoirs que le nouveau président allait tenter de tourner la page, ou malheureusement la vision qui est défendue à travers ces 2 prises de parole où 2 journalistes sont pris à partie de manière très violente, tente à montrer que la réalité du journalisme au Burundi est encore extrêmement difficile et des journalistes qui ne font que leur travail. les journalistes sont pas là pour être des patriotes entre guillemets qui seraient au service de la communication du gouvernement. Ils sont là pour établir les informations, pour les chercher, pour établir aussi un débat d'idées qui soit le plus pluraliste possible, le plus contradictoire possible. Je crois que plus personne n'est en mesure dans le monde de nier les graves conséquences et la réalité de cette crise sanitaire. Et le rôle des journalistes, eh bien, c'est d'informer, et c'est aussi de faire en sorte que les autorités puissent prendre les bonnes décisions. Il est vraiment important que les autorités prennent la mesure de ce qu'un journalisme indépendant, même si ça ne diffuse pas forcément des informations qui sont dans leurs intérêts directs, ça a une contribution qui est inestimable au développement des sociétés. On regrette évidemment que le président ait pu tenir de tels propos. Ça, c'est extrêmement invectivant et dangereux pour les journalistes qui sont visés, mais je dirais que c'est encore même peut-être tout aussi dangereux pour les journalistes qui sont encore sur place au Burundi et qui savent désormais que pour traiter ce sujet-là, il va sans doute falloir prendre des précautions.
D'autres organisations telles que l'Union burundaise des journalistes et Human Rights Watch ont également exprimé leur inquiétude à propos de l'attaque verbale du chef de l'État contre les journalistes. L'acquisition et le déploiement des vaccins du Covid-19, c'est ce qu'exige la Banque mondiale au gouvernement burundais avant de lui octroyer le financement additionnel du projet de riposte à cette pandémie. La représentante de la Banque mondiale au Burundi, Véronique Kabango, précise que toute assistance technique reste disponible pour mener à bien la campagne de vaccination sur tout le territoire national. Le point avec Alexandre Niyongeko.
La Banque mondiale accepte le report de la date de clôture et le financement additionnel du projet de préparation et de riposte à la COVID-19 au Burundi. C'est le contenu de la correspondance adressée au ministre burundais des Finances, Domitien Ndibokougayo, ce lundi, par la représentante résidente de la Banque mondiale au Burundi, Véronique Kabongo, indique que la Banque mondiale est disposée à procéder au financement additionnel pour compléter les efforts du gouvernement dans la prévention et la préparation contre la pandémie du Covid-19, mais elle donne toutefois des conditionnalités. Le gouvernement burundais doit accepter l'acquisition et le déploiement des vaccins sur tout le territoire national dans le cadre de l'initiative de l'Union africaine, AVAT. Les équipes techniques de la Banque mondiale sont prêtes à collaborer avec ses partenaires, dont l'UNICEF, l'OMS et l'Union africaine pour assister le gouvernement afin d'accélérer la disponibilité et le déploiement des vaccins, précise toujours la représentante résidente de la Banque mondiale au Burundi. Vous saurez que le ministre burundais de la Santé publique, le docteur Tade Nikumana, et celui de l'Intérieur, de la Sécurité et du Développement communautaire, Gervais Nirakoucha, ont déclaré dernièrement qu'aucune campagne de vaccination contre la pandémie du Covid-19 ne sera engagée par le gouvernement burundais dans le pays. Ces autorités ont par ailleurs annoncé que cette aide de vaccin promise par la Banque mondiale sera stockée dans des établissements sanitaires et que quiconque voudra se faire vacciner pourra solliciter le vaccin. Ils ont par ailleurs renchéri que le gouvernement rejette toute responsabilité en cas d'effet indésirable suite à ce vaccin.
24 personnes tuées, 3 cas d'enlèvement et 30 autres cas d'arrestation arbitraire, tel est le bilan fait par l'Action chrétienne pour l'abolition de la torture à Kat Burundi pour le mois d'août. Cette organisation s'inquiète du phénomène des crimes liés à la sorcellerie devenu alarmant, surtout dans la province de Muyinga. Elle demande au gouvernement d'y réserver une attention particulière. Écoutez à ce propos Augustin Nimubona, chargé de la communication à Kat Burundi.
Dans ce rapport, la Cat Burundi dénonce des corps sans vie, suspendus près de leur domicile ou à l'intérieur de ceux-ci, faisant croire à des morts par suicide, et qui sont devenus monnaie courante ces derniers jours et qui inquiètent la population. Et la province de Muyinga en est l'exemple le plus frappant. Le phénomène également de meurtre de personnes sur des allégations de sorcellerie, et c'est également fait remarquer au cours de ce mois d'août 2021. Et au regard de cette situation, la CAT Burundi demande au gouvernement du Burundi de veiller à assurer la sécurité de la population sans distinction aucune. Elle demande également à son gouvernement de mettre fin à de multiples violations des droits de l'homme conformément à des engagements nationaux, régionaux et internationaux. ACAD Burundi demande également au gouvernement burundais de se saisir des cas de crimes dans les ménages pour des allégations de sorcellerie ou de conflits fonciers qui sont devenus monnaie courante suite à l'impunité qui gangrène le système judiciaire.
Dans la suite de la campagne initiée par le mouvement MAP Burundi pour la célébration du 21e anniversaire des accords d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi, Léon Sengendakumana, vice-président du parti FRODEBU, indique que ces accords ont poussé les Burundais à renforcer l'unité. Selon Léon Sengendakumana, les Burundais devraient consolider cet accord pour le développement d'un pays paisible et sécurisé.
C'est un accord très très important dans la mesure où il a consolidé la charte d'unité nationale. Très peu de Burundais savent que l'accord d'Arusha n'est pas un accord, que c'est plutôt un accord pour la paix et la réconciliation. C'est un instrument pour chercher la paix et la réconciliation, alors vers un développement intégré, vers la cohabitation pacifique des Burundais, vers l'unité et la paix du peuple burundais. C'est un accord qui a été soutenu par la région et par la communauté internationale. C'est un accord qui a été signé par le gouvernement, le parlement, les mouvements politiques armés et les partis politiques agréés au Burundi, qui a été soutenu par l'ensemble des Burundais. C'est un accord très très important. Cet accord doit être réhabilité dans la mesure où cet accord a permis de rapprocher les Burundais, de montrer aux Burundais comment ils doivent gérer leur pays, partageant le pouvoir politique, le pouvoir militaire, le pouvoir économique, pour assurer la cohabitation des Burundais, pour assurer l'unité et la cohésion des Burundais. J'en appelle alors à tous les Burundais, en commençant par les gestionnaires de l'État, les partis politiques, la société civile, les médias, les confessions religieuses, la population elle-même, à se lever comme un seul homme pour continuer à défendre l'accord d'Arusha, pour continuer à exiger le respect de l'application de l'accord d'Arusha de manière à ce qu'on aboutisse à un Burundi digne, un Burundi prospère, un Burundi uni, un Burundi réconcilié, un Burundi respectueux.
Inzamba.
Le président de la République, Evariste Ndayishimiye, devrait d'abord connaître l'état des lieux du fonctionnement des États et faire un audit général dans les entreprises para-étatiques au lieu de gronder les travailleurs. C'est l'avis de Frédéric Mvuginyumvira, un ancien vice-président de la République du Burundi. Selon lui, il devrait chercher de vrais collaborateurs et à la rigueur changer la gouvernance. Écoutez-le.
Je crois que le président de la République devrait quand même revoir sa façon d'agir aujourd'hui. Ses déclarations, ses plaintes, ses pleurs n'ajoutent rien à ce dont le Burundi souffre aujourd'hui. Le Burundi souffre de beaucoup de maux, donc c'est pour cette raison que je conseillerais à ce que, justement, il recrute des experts qui peuvent en fait étudier, faire l'état des lieux du fonctionnement des États. Il y en a, du côté de la Banque mondiale, il y en a, du côté partout, il y en a. Il peut les trouver à gauche, à droite, et on sait qu'il y a des équipes qui peuvent étudier comment la politique fonctionne dans le pays, comment le social fonctionne dans le pays, comment l'économie fonctionne dans le pays. Et à propos de l'économie, il peut commanditer un audit général de l'État. L'argent de l'État est venu d'où? Il est allé où? Il a été utilisé par qui et comment? Et expliquer au Burundi ce qui s'est passé. Et avec cet état des lieux sur le plan politique, sur le plan social, sur le plan économique, en fait, il va nous dire, voilà, et il y aura les mêmes experts pourront lui dire, voilà ce qui devrait être fait. Maintenant, chercher les hommes, il pourra constater qu'il y a des hommes qui sont dans le parti CNDD-FDD et qui sont capables de l'aider. Et d'autres qui ne sont pas dans le parti CNDD-FDD qui soient capables de l'aider. Mais je le conseille de ne pas se fier uniquement à son parti. C'est pour cette raison que je le conseille de chercher à construire la nation, le pays, et trouver des éléments capables de le faire là où ils sont.
Le président de la République ne devrait pas attaquer le syndicat des travailleurs de l'Office national de télécommunications, ONATEL, mais plutôt s'asseoir avec le conseil d'entreprise, le conseil d'administration et l'inspection générale de l'État pour voir le nœud de la faillite de l'ONATEL. Déclaration de Madame Eulari Niwizi, ancien membre de la Confédération des syndicats du Burundi, COSIB. Pour Eulari Niwizi, attaquer les syndicalistes sur la faillite d'une entreprise est une fuite en avant. Plus de détails avec Vanessa Muhitek.
Le président de la République du Burundi, Evariste Ndayishimiye, a annoncé au syndicat du personnel de l'Office national de télécommunications, ONATEL, qu'ils ne recevront plus de salaire parce que leur entreprise est en faillite. Il a accusé le syndicat d'être à l'origine de cette faillite.
Ce syndicat, il devrait faire des recherches pour voir comment ils vont rembourser cet argent du contribuable. Est-ce qu'ils pensent que ce capital a été là pour qu'il soit mangé par eux seuls? Des personnes qui ne totalisent même pas le nombre de 5 000 pour consommer tout l'argent du contribuable. Ils avaient la mission de produire et ils ont échoué et ils se tiennent debout en justifiant que c'est le syndicat. Quel est ce genre de syndicat qui ne produit pas pour l'intérêt général des Burundais? Cette pratique de percevoir des salaires alors que vous n'avez pas travaillé, il faut que ça cesse. Vous ne recevrez rien. Quand un bébé meurt, le contrat avec la banque prend fin automatiquement. Nous ne pouvons pas accepter ce genre de comportement. Mais vous trouverez ces syndicalistes sur des comptoirs de bistrot en train de boire de la bière et se disent qu'ils sont des hommes. Moi, je dis qu'ils ne sont plus des humains.
Eulari Niwizi, un des anciens responsables de la Confédération des syndicats du Burundi, COSIBU, fait savoir que les entreprises paritatiques comme le ONATEL publient chaque année le bilan de ses réalisations et d'ajouter que leurs directeurs généraux sont nommés par décret présidentiel.
Le directeur général de l'ONATEL est nommé par le président de la République. Je me souviens que j'ai été vice-présidente de la Confédération des syndicats du Burundi, COSIBU. Nous avons toujours agi en faveur de l'ONATEL en tant qu'entreprise parapublique. Nous avons fait des constats. En ce qui concerne la mauvaise gestion qui se faisait à l'ONATEL, le conseil que je donnerais, c'est que le président de la République devrait passer par les organes chargés de la gestion de l'ONATEL. Il y a le conseil d'entreprise. Il analyse régulièrement le fonctionnement de l'entreprise et donne des rapports. Il y a le conseil d'administration qui est l'organe suprême, qui est chargé de la supervision quotidienne de la gestion de l'entreprise et qui peut lancer des alertes à la fin de l'année quand ils produisent des bilans. À la sortie du bilan, normalement, le conseil d'administration envoie des signaux qui montrent qu'il est en faillite ou qu'il n'est pas en faillite et le secrétariat est assuré par le directeur général.
Et la Rénivise, il dit en outre que le président ne devrait pas s'attaquer aux syndicalistes parce que ces derniers ont lancé d'incessantes alertes annonçant la faillite de l'entreprise.
Je crois qu'il est parti trop vite en attaquant le syndicat. Attaquer le syndicat, je dirais que c'est une attaque qui ne devrait pas se passer. Le personnel de l'ONATEL a lancé des alertes et la réaction de la direction générale de l'ONATEL, ça a été de perturber les travailleurs, ça a été de sanctionner les travailleurs, même de les faire emprisonner. Le président de la République devrait normalement passer par les échelons, c'est-à-dire commanditer une étude, suivre au cas par cas les responsabilités avant de publier une menace publique comme celle-là. Le premier répondant, c'est le directeur général. Et chaque année, il voit ce qui se passe. Il passe par les mécanismes financiers et administratifs pour inspecter et pour apprécier la gestion de l'entreprise et qu'il mette en évidence les responsabilités parce que les directeurs généraux qui ont été là n'ont pas été nommés par le syndicat. C'est une fuite en avant. Ça, c'est la globalisation et la globalisation paye pas. Le public attend du président de la République la publication plutôt d'un bilan et de dire voilà, à cette époque, un tel a détourné, à cette époque, un tel a mal géré et il doit répondre. Et ce n'est pas seulement pour l'ONATEL.
Et la Rénivisi demande qu'il y ait d'abord le respect des droits du personnel prescrits dans le contrat de travail et enfin se lancer dans la campagne de voir comment l'entreprise puisse être relevée. Pour rappel, le personnel de l'ONATEL réclame les arriérés de 4 mensualités de salaire.
La peur d'un rapatriement forcé s'accentue chez les réfugiés burundais du camp de Nduta en Tanzanie. À l'origine, la récente décision d'envoyer d'ici peu une délégation de réfugiés au Burundi. L'objectif, selon les responsables du camp, étant de s'enquérir de la situation sécuritaire sur terrain et retourner en Tanzanie pour en rendre compte aux autres réfugiés. Les réfugiés dénoncent une stratégie de les contraindre à rentrer. Des précisions de Beni Axelakana.
La délégation sera composée de chefs de village et de zone en Douta. L'annonce a été faite le 27 août dernier lors d'une réunion organisée à leur intention par les responsables du canton Douta selon des sources sur place. La durée de la visite sera de 2 semaines, mais la date du départ n'a pas été précisée. La décision fait renaître la peur chez les réfugiés.
Nous sommes vraiment très inquiets parce que depuis le week-end, il y avait eu des assassinats ciblés, des disparitions forcées, des emprisonnements, des tortures à l'endroit de votre voisin. Quelqu'un qui, à Macarena, n'a pas vraiment entendu des coups de feu, il a pris la décision de fuir. C'est la même chose aujourd'hui. Nous sommes au courant de ce qui se passe au pays. Les membres du parti d'opposition qui sont encore au pays subissent la même chose que ceux de 2015.
La prochaine étape pourrait être un rapatriement forcé, alerte les mêmes réfugiés.
Nous nous inquiétons qu'après cette visite, il y aura d'autres visites qui seront prises pour nous forcer à rentrer parce qu'ils nous diront que nos représentants ont été au Burundi, ils ont réussi à la paix et la sécurité et que pour rentrer, nous sommes vraiment inquiets. Et nous pensons que ça s'inscrit dans cette stratégie des opérations tanzaniennes pour nous rapatrier à par force.
Nous n'avons pas réussi à joindre par téléphone le responsable du canton Douta pour qu'il s'exprime sur ses préoccupations. A rappeler que les Burundais réfugiés en Tanzanie depuis 2015 vivent dans une peur constante. Aux attaques armées qui ont déjà coûté la vie à des dizaines de réfugiés s'ajoutent différentes mesures et discours des autorités tanzaniennes visant à les contraindre à retourner dans leur pays. Cela a déjà fait réagir des organisations internationales des droits de l'homme. Des appels au respect des droits de ces réfugiés fusent de partout.
C'est la fin de cette édition. Merci à la rédaction de la radio Inzamba, Gatika Kawe. Merci également à vous, chers auditrices et auditeurs, pour votre fidélité. Au revoir.